Chapitre 9. La conférence de la paix. La conférence de la paix, mot magique, succédant en coups de théâtre ou tueries de la guerre pour précipiter les hommes des pires excès de la violence dans l'abîme sans fond d'une espérance de droit universel, aussi prompte à s'annoncer qu'à s'évanouir en fumée. Trop de réalité dans la guerre et trop d'ajournement dans la paix. Même sincérité, même ardeur aux préméditations du meurtre en masse qu'au brouillard d'un verbalisme d'idéalité, coutumières alternances du va-et-vient organique qui détermine les oscillations contradictoires de notre vie communément déçue. En attendant les plénipotentiaires du monde civilisé qui allaient se réunir à Paris, je songeais aux antiques accessoires de palabres et de parades qui avaient accompagné ce genre de cérémonie. On avait trop souffert de toutes parts pour que la tradition pût être reprise des fêtes internationales servant d'entracte aux fastueux décrets des souverains qui se plaisaient jadis à amuser les peuples avant de les dépecer. Je me demandais ce qui pourrait s'abolir du passé au profit des conceptions nouvelles et ce que le fond immuable des problèmes internationaux nous imposerait en des termes de courtoisie bourgeoise, de ce mélange congru de diplomatiques approximations qu'on appelle la vérité. M. Poincaré, pour ne rien oublier, saisit l'occasion de se plaindre que le traité de Versailles n'eût pas maintenu la prééminence diplomatique de la langue française. Il savait pourtant quels immenses territoires avait gagné la langue anglaise à nos dépens dans les deux derniers siècles. Ne pas tenir compte des faits est une importance partie de l'art de l'avocat. Nous autres, pauvres maçons de la politique, nous taillons dans la pierre des monuments historiques qui, parfois, ne nous déçoivent pas moins que les vieux parchemins engloutis dans les arcanes du passé. L'arc de triomphe, achevé par le Louis-Philippe de la paix à tout prix, nous invite à vivre Austerlitz ou Iéna, tandis que la conclusion de l'aventure napoléonienne, qui n'est pas toute l'histoire de France, fut véritablement Waterloo. Et si l'on se proposait de suivre à nouveau le fil de l'ancienne histoire, ne serait-ce pas la descendance de Wellington qu'il faudrait prendre pour barrer la route à la postérité de Blücher? Faut-il ajouter que depuis 7 ans, l'Amérique est apparue dans le développement prodigieux d'une énergie violente qui emporte un peuple de 100 millions d'hommes aux excès d'une puissance d'empirisme dont personne ne sera maître une fois déchaîné. Pour l'heure, elle prétend s'installer dans le monde économique européen en des formes de maîtrise, avec les mêmes résultats que les ruées des conquérants qui, malgré tant de triomphales apparences, ont finalement échoué. Tel Napoléon, déjà nommé. C'est qu'il n'y a pas d'état stationnaire, il faut grandir ou dépérir. On parle de nous réconcilier avec l'Allemagne. Je ne demande pas mieux. Mais le peuple allemand est sans scrupule, et le français n'aime rien tant que d'oublier. Si l'un avance à tout moment, tandis que l'autre s'abandonne aux énervantes joies du recul, les deux personnages se rencontreront de guingois. Je l'ai dit, il s'agissait pour moi d'autres événements que des histoires de troupiers, d'un soldat vainqueur et mécontent de la part de victoire à lui attribuée. Autant et plus que tout autre, je souhaiterais, s'il était possible, ne pas retomber, dans quelque forme que ce fût, dans les sanglantes aventures des conquêtes militaires dont la tentation hante encore les imaginations fiévreuses des peuples allemands. Je n'ai garde de méconnaître la puissance transformatrice du mouvement humanitaire et qui, partant de chemins imprévus, nous mène à des achèvements doctrinaux d'une aspiration parfois si haute que nous avons peine à en vivre quelques parties à travers les accidents de la durée. Au vrai, vainqueurs et vaincus s'en vont tous vers des approximations d'une commune destinée sous des noms différents. Prompt à dire, lent à faire, c'est l'une des formules de l'homme d'action. Chacun sait aujourd'hui qu'aucun peuple ne peut suffire à la tâche de tous, ainsi que l'établit l'historique succession des préséances nationales dans les conquêtes de l'esprit humain. Les guerres ne détruisent que pour un temps les forces du vaincu au profit du vainqueur. Cependant, les progrès des machines de meurtre vont peut-être plus vite que les organisations de paix. Déjà, le bombardement des villes par des gaz asphyxiants paraît atteindre une perfection qui ne sera pas aisément dépassé. Il semble même aujourd'hui qu'une bonne organisation de tuerie, fonctionnant à souhait, peut, avec une suffisante provision de zeppelins, consommer en quelques instants la destruction de tout un peuple, sans qu'il en reste même quelque procès-verbal d'un secrétaire d'une société des nations à tout faire pour écrire l'histoire de ce dernier progrès. Eh bien, malgré ces grands horizons d'infini dans le trouble desquels se perd l'esprit humain, dès que les hommes de moyenne sensibilité se rencontrent pour traiter d'une paix de tolérance réciproque, à défaut de fraternité, le geste s'apaise, le ton s'adoucit, les paupières lentement battent la pupille étonnée, et la main se détend en un geste de bon vouloir. Évanouis les Talleyrands, les Metternich d'hier, ombre du temps passé, que la porte s'ouvre donc aux messagers des temps nouveaux. J'attendais. Enfin, une main providentielle tire le rideau des ors bourgeois et des soieries fanées du quai d'Orsay. Et voici Lord George, frais et rose, qui s'avance, éclairé d'un joyeux sourire à point fermé, avec parfois des gesticulations si vives qu'un jour le président Wilson dut passer entre nous deux, ses bras faisant barrière avec ses mots d'aménité. Eh bien, je n'avais jamais vu deux hommes aussi déraisonnables, ce qui nous permit d'achever la scène de colère dans un éclat de rire. Voici M. Arthur Balfour, le plus cultivé, le plus gracieux, le plus courtois des hommes inflexibles. M. Bonarlow, le prince de l'équilibre, qui serait un précieux français s'il n'était tout britannique. Lord Robert Cecil, un chrétien qui croit et veut vivre sa croyance, avec un sourire de dragon chinois pour exprimer une obstination fermée aux arguments. Lord Milner, une lumineuse intelligence couronnée d'une haute culture et qui s'achève en discrète sentimentalité. Extrême douceur, extrême fermeté. Poète à 16 heures. L'homme qui, au cours de l'un des moments les plus difficiles, dans un de ses rapports officiels sur son voyage nocturne de Londres à Versailles, s'arrêta à parler de la beauté du clair de lune et de l'herbe du printemps. Plus tard apparaîtra le président Woodrow Wilson, cuirassé des 14 principes, figuré par autant de canines de sagesse qui ne se laissent pas détourner de leurs fonctions. Edward House, le colonel House, un surcivilisé échappé des sauvageries du Texas, qui voit tout, qui comprend tout, et n'agissant qu'à son idée, sait se faire écouter et respecter de tout le monde. Bon américain, presque aussi bon français, esprit de pondération, l'honnête homme classique avant tout. Je serais bien ingrat si je pouvais oublier les services éminents que cet homme de belle formation américaine a rendus à la cause d'une paix civilisée. Ne fût-ce que pour avoir choisi ce bon auxiliaire, M. Wilson mériterait la reconnaissance des amis de l'humanité. Sans doute il a eu trop confiance dans le parlage et le surparlage de sa Société des Nations, mais que pouvait-il faire d'une assemblée de parleurs à qui il se voyait lui-même obligé de refuser tout pouvoir d'exécution? L'excès de confiance dans les mots ne peut conduire qu'aux déceptions. Je dois citer encore l'éminent général Bliss, esprit indépendant, qui avait des opinions personnelles bien ancrées et n'en démordait pas, un amiral médecin qui répondait universellement non à tout ce qu'on lui disait sans jamais essayer une explication. M. Hoover, aujourd'hui président des États-Unis, qui se faisait remarquer par une raideur d'homme au bout de son tempérament. M. Orlando, tout à tous, italienissime, doublé du baron Sonnimo, d'une redoutable ironie, qui ne lâchait pas prise quand il avait accroché. M. Heyman, ce belge d'une aménité incisive. Enfin, l'un des meilleurs, Bénès, l'homme de la Tchécoslovaquie ressuscité, qui a conquis l'estime et la confiance générale par la droiture de sa parole et l'élévation de son intelligence. Venizelos, fils d'Ulysse et de Calypso, loyalement imprégné d'une astuce hellénique. Paderewski, grande âme harmonieuse, faisant chanter son rêve au trop-plein de son cœur, et tant d'autres que je devrais nommer, pour ne rien dire de l'ineffable groupe des mécontents, Robert Lansing, Keynes, etc. Combien d'autres encore? Wellington Koo, jeune chat chinois, d'habits et de discours parisiens, tout au plaisir de peloter la souris, même si c'était aux Japonais qu'elle fut réservée. Son éloquence intarissable impatientait fort le baron Matsui, bloc massif d'esprit nippon, qui parlait peu mais ne craignait pas une parole accentuée. L'aimable prince Sanyonji, jadis impétueux, aujourd'hui doucement ironique, mon ancien camarade au cours du professeur de droit Émile Acollas. Le comte Makino, compréhensif et réservé. Au premier rang, j'aurais dû placer M. Hughes, le noble délégué de l'Australie, avec qui l'on causait à travers une boîte acoustique d'où s'échappaient des concerts de bon sens. Le délégué Doberti, du Canada, un beau masque d'une expression d'intelligence barrée. Le délégué de la Nouvelle-Zélande, Massé, classé de premier rang pour la hauteur des sentiments et l'éloquente bienveillance du rustique discours. C'était la plaisanterie classique de lui demander jusqu'à quel âge il avait pratiqué l'anthropophagie. À quoi il répondait « Au moins je les faisais cuire, tandis que vous les mangez tout cru. » Smuts, de l'Afrique du Sud, au sourire contraint, qui avait le tort de laisser traîner des papiers où il s'était déchargé d'un excès de bile contre la France. Et puis, évoluant autour de ce bouquet d'esprits en fleurs, des constellations de visages à consulter qui s'allumaient et s'éteignaient aux questions de ceux qui les avaient amenés là pour se permettre de tout savoir. Enfin, circulant au cœur de cette foule avec un aimable sourire, le vrai maître du jeu, Maurice Hankey, secrétaire de la délégation britannique, remorquant après lui une grande sacoche de cuir débordant de papier. Ses qualités supérieures d'ordre, de loyauté et d'impeccable discipline lui avaient conféré la fonction, sinon le titre, d'arbitre universel de la documentation du traité. À l'appel de quiconque, la grande sacoche de cuir venait à point pour livrer instantanément la pièce demandée. J'ai gardé pour la fin mon grand ami, le Maharaja du Bikaner, qui prit bravement la parole pour s'opposer à ce qu'on leva le voile féminin de l'islam, le Purda. Dans la jungle de Rampura, chez l'excellent Maharaja de Gwalior, il m'a permis de faire connaissance avec le tigre et de lui manifester mes sentiments. Une assemblée de personnages divers, où l'on peut dire que tous les continents de la Terre étaient représentés, tous marqués d'une commune idéologie du droit des peuples à se gouverner eux-mêmes dans l'ordre d'un régime représentatif qui, avec ses imperfections, n'en demeura pas moins un achèvement supérieur aux violences de la conquête. Je veux que ce ne soit pas le dernier mot de notre civilisation. Oui, le dernier mot de rien. Ce n'en est pas moins le signe d'une émancipation des sociétés humaines émergeant des violences primitives pour se former aux réactions initiatrices d'une liberté. Qu'ils soient donc salués à leur entrée dans l'histoire, ces libérateurs qui apportent aux brutalités de l'empirisme le secours de l'idée. Les premiers usages de cette indépendance peuvent être médiocres et le sont trop souvent, en effet, mais l'élimination d'une partie des violences sociales au profit d'un ordre meilleur dans les développements de la personnalité et de la dignité humaine marque un tel achèvement dans les activités de la créature pensante qu'il n'est pas d'abus pour la faire regretter. Se tromper n'est pas nécessairement faillir, car dans la défaillance il y a des degrés. La Révolution française a mal inauguré l'ère de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais de ce qu'elle a contribué à inaugurer, nous avons tiré l'acceptable armature d'un régime social infiniment supérieur à ce qui précédait 1789. Dans les circonstances les plus simples, les idées générales n'en sont pas moins d'un puissant secours. Nous nous enthousiasmons trop vite et nous nous décourageons trop tôt. À chacun de rechercher et de trouver sa mesure dans les circonstances de la leçon. C'est que nous sommes une agrégation des forces du plus lointain passé en devenir de formations inconnues, insaisissables autrement que par un mot, le présent dont nous sommes si fiers, rencontre instantanée entre le passé hasardeux dont nous sommes le produit et l'avenir inconnu en direction duquel nous sommes engagés. Comment ne serions-nous pas de présomption et d'ignorance autant et souvent plus que d'une aspiration toute droite aux modestes grandeurs qui nous sont imparties? Le plus difficile est peut-être de respecter, dans l'erreur elle-même, le grain de vérité qui n'y passe que pour être défiguré. grand par l'idée, faible par les moyens, je les salue, ces députés de la victoire, apportant dans leurs mains triomphales les ressources d'une tentative si belle qu'une espérance invincible auréole jusqu'aux déceptions de l'insuccès. Soyez les bienvenus, amis, dans notre capitale étonnée, parmi les suprêmes palpitations du plus violent accès de barbarie où la civilisation elle-même fut sur le point de succomber. Vous êtes le vivant témoignage de nos grandeurs et de nos misères, entre lesquelles il peut être parfois hasardeux de distinguer. Le témoignage de l'humanité en faveur d'elle-même, voilà ce que vous nous apportez. C'est un moment, un grand moment de l'homme que nous vous devons de vivre, puisque vos enfants ont donné leur vie pour que la nôtre fût accrue. Oui, j'entends bien qu'il y a des résistances. Foch, un soldat, ne voudra pas se départir de la tradition de la conquête et, comme tous les conquérants de l'histoire, il a trouvé des juristes pour lui construire, à mi-chemin du oui et du non, une doctrine de la conquête à perpétuer. Cela ne peut être pour vous surprendre. Il n'est pas de victoire qui n'ait et ne garde des passages de défaite. Il n'est pas de défaite sans de vagues retentissements d'éventuelles victoires à préparer. Ce qu'il adviendra de la paix que vous allez fonder par l'inauguration des rites qui vous amènent parmi nous, nul ne saurait le dire, car dans les conditions actuelles, c'est une autre succession de chances à courir. De nouveaux combats sur le thème libérateur par de nouveaux moyens. Même partie adverse, joignant à sa puissance de culture mentale un fond d'inculture morale, qui nous demande avec une rare impudence de fonder la paix nouvelle sur le prodigieux mensonge de l'innocence germanique. Mauvaise et bonne chance diversement mêlées. Il faut tout dire, c'est que vous allez décider, amis, sous la dictée de votre conscience, vous l'aurez délibéré entre vous, hors du contact du perturbateur vaincu qui ne paraîtra que pour recevoir votre loi. Saurons-nous l'y maintenir ? Vous dites une moyenne de droit susceptible d'être vécue. Vous dites, et l'action, hélas, c'est à nous que vous la laissez. Eh bien, soit, nous ne nous montrerons peut-être pas indignes de la charge d'espérance que vous avez placée en nous. Vienne l'adversaire à la table du traité, il lui sera rendu des comptes comme il lui en sera demandé. Faire vivre le droit, quelle ambition plus noble ! Inaugurer une vie plus stable, plus haute et plus belle que celle qu'il a reçue, c'est le rêve de l'homme pensant. Combien et combien de temps l'ont pu réaliser pour eux-mêmes en attendant le coup de chance qui permettra l'aide pour autrui. Un ancien, ayant à faire la démonstration du mouvement, n'eut besoin que de marcher. À toute heure du jour, notre idéologie est appelée à faire ses preuves. Aux jointures du passé et de l'avenir, où l'idée est appelée à rendre ses comptes, nous avons appris à distinguer ce qu'elle annonce de ce qu'elle peut réaliser. La marge vient de la distance de la parole à l'action. Chargée de tous les fardeaux du passé, notre idéologie aptère voudrait se libérer d'un grand coup de théâtre, mais l'homme évolue lentement selon des accommodations progressives qui ont besoin de millénaires pour faire d'une existence ancienne une existence nouvelle. Tout le problème est de persévérer au lieu de se décourager. Voilà pourquoi je n'eus besoin, pour désarmer le maréchal et M. Poincaré de leurs arguments en faveur d'une permanence du régime des conquêtes, que de leur découvrir l'entrée en scène de ces hommes qui, hier encore, ne s'étaient jamais rencontrés et qui, sans circonlocution de protocole, entrèrent tête haute dans le palais de Louis XIV pour délibérer sur les problèmes des sociétés humaines, et même se mirent d'accord, toutes parties entendues, sans trop de difficultés. Si ce n'est pas tout à fait un miracle, avouez que ce n'en est pas loin. C'est que le mot d'ordre du traité de Versailles, c'est la libération des peuples, l'indépendance des nationalités, tandis que le mot d'ordre de la politique du maréchal Foch et de M. Poincaré, c'était l'annexion d'un territoire par la force des armes contre la volonté de ses habitants. Je sais bien que ces messieurs ne s'opposaient point à la libération des peuples. Ils ne voulaient rien prendre qu'à leurs voisins. Ce point admis, ils exigeaient de leur autorité que personne ne prît exemple sur eux. En vérité, le silence de M. Poincaré, qui ne pouvait se désintéresser des arguments politiques aussi aisément que le maréchal, ne s'expliquait que trop bien. Le sort a prononcé, la conférence a dit, elle a été obéie. Que n'a-t-elle pu garder la haute main sur l'exécution du traité? Je n'anticiperai pas. Débordant de jactance germanique, M. de Brockdorff-Transau devait nous dire plus tard que nous haïssions l'Allemagne parce que nous avions osé nous défendre contre elle. Mais il faudra que nos pays d'Europe ou de formation européenne soient revenus à leur gouvernement familier des à peu près de la vie courante pour que l'ennemi vaincu se redresse en vainqueur, ose regarder en face ces crimes dont il avait signé l'aveu et se permette, dans la déroute des courages, de demander des comptes à ceux par qui sa malfaisance avait été abattue. La conférence était entrée dans l'histoire. Sous la tentative des vaincus devenus bruyants contradicteurs, si les alliés ne se sont pas mésalliés, il en est qui ont désavoué leurs amitiés de guerre, et nos gouvernements n'ont pas même montré la somme de résistance nécessaire pour maintenir intégralement notre droit aux réparations. La conférence est innocente de ces mots. Elle a appelé devant elle toutes les parties intéressées. Qui avait à dire a été entendu. Le traité sera jugé selon ses mérites. L'apparition d'une grandiose conférence d'arbitrage entre les peuples demandant justice est un acte d'histoire qui, en dépit de tout, aura des conséquences pour l'avenir. Peut-être voudra-t-on contester la nouveauté du phénomène social où je me suis arrêté. On me parlera du paysan du Danube, en son sayon de poil de chèvre, député pour dire leur fait aux Romains. Je le salue respectueusement au passage. Mais la belle fortitude d'un héros solitaire ne peut être que le signe précurseur de l'intervention concertée des peuples civilisés pour se libérer de l'oppresseur par un ordre d'indépendance sociale dont ils ont eux-mêmes déterminé les fondements. C'est ici surtout qu'on ne manquera pas d'invoquer les accomplissements du fameux traité de Westphalie, classiquement cité pour avoir tenté d'inaugurer en cours de guerre quelque chose qui pouvait devenir le droit européen. On parlemente en guerroyant, tandis que les deux représentants du grand roi donnent à la galerie le spectacle de ces âpres querelles de personnes qui sont le principal souci de la médiocrité de tous les temps. Napoléon, guerrier supérieur, plus ingénu qu'il n'a pensé, faute d'un frein de philosophe, assure une fois de plus par sa chute l'échec irréparable du pouvoir personnel, comme avait fait du pouvoir populaire notre révolution, ballottée entre l'échafaud du 21 janvier et le couronnement d'un empereur. On sait que le traité de Westphalie eut la prétention de fonder le droit européen. La Révolution française prouva clairement qu'il n'avait pas réussi. Et comme Napoléon fit la même démonstration pour la Révolution française, tout cet imbroglio de guerre nous mit au point de recommencer. Il ne fallut guère plus de 5 ans à Mazarin pour arriver à mettre sur pied une paix où il s'agissait du remaniement de l'Europe. Et pendant que ses ambassadeurs se querellaient avec âpreté pour des questions de préséance et d'étiquette, la guerre, entretenue par la lenteur de la diplomatie, redoublait au contraire de vigueur et d'acharnement. En ce temps, guerre et diplomatie allaient de compagnie. On n'avait pas besoin de se presser. À Münster et à Honnasbruck, les salutations et les visites, la solennelle hâblerie des harangues, le pédantisme inépuisable des juristes, la table ouverte des grands personnages, les mangeries et les beuveries énormes, tout le cérémonial où les grands et les petits orgueils se rengorgeaient occupaient les jours et les jours. Et voilà le congrès de Vienne pour la revanche des aristocraties européennes. « Le congrès ne marche pas, il danse », écrit le prince de Ligne. Et en effet, ce ne sont que ballets, comédies, opéras, chasses, soupers fantastiques, divertissements de haute folie. Un jeune comte autrichien qui doit jouer Apollon refuse, un mois durant, de se laisser couper la moustache. Il ne faut rien de moins pour le décider que l'intervention directe de l'impératrice. Voilà ce dont on parle, voilà ce qui tient les esprits en suspens jusqu'à ce que le Robinson Crusoé de l'île d'Elbe dissipe ses folies pour un simple changement d'île. L'embourgeoisement d'une idéologie fatiguée nous réservait d'autres récréations moins fastueuses qui nous ont laissés comme dépouillés de nous-mêmes devant les grands problèmes internationaux toujours posés, jamais résolus. En 1870, Bismarck nous découvrit, jeté par les tempêtes, au plus loin de ces pèlerins de l'idée accourus à Versailles de tout le pays du monde, ayant forgé le plus beau de leurs espérances sur l'enclume d'une histoire dont ils ont vécu de cruelles parties. L'armistice de Retonde atteste que nous nous sommes ressaisis. Nos députés de la Libération savent bien ce qu'ils voudraient faire, ils ignorent ce qu'ils feront. Quelque chose comme l'état d'esprit de nos bons constituants de 1789 qui a porté Montesquieu à la tribune sans trouver la jointure de ce qu'il faut prendre ou laisser pour la bonne adaptation des partis de révolution et de stabilité. Ceux que la vie a rendus modestes se réjouissent d'essayer. Ceux que l'idéologie lance à l'assaut des phénomènes heurteront trop de gens qui font masse d'insuffisances révoltées. Tôt ou tard, ils comprendront que la rencontre des potentiels du passé avec les attirances de l'avenir suscite des déceptions qu'une longue durée d'efforts pour de simples apparences de fragiles résultats. Ceux qui ne comprennent rien du tumulte d'énergie où les insère leur destinée connaîtront le plus vif des mécomptes. D'autres se contenteront pour leur usage des révolutions de mots les plus belles mais les plus brèves. Il arrive ainsi que la victoire penche du bon côté et qu'à l'appel de cette providentielle inadvertance, les opprimés se lèvent ainsi que dans un rêve et marchent à l'étoile, paupières closes, dans la direction d'un moindre mal, sinon d'un plus grand bien. « De ton propre effort, fais toi-même la rémunération de ta vie, » dit l'oracle. À chacun de découvrir ce qu'il a gagné de plus sûr à sortir vainqueur du combat, c'est le pouvoir de porter allègrement son fardeau en y ajoutant parfois même une part du fardeau d'autrui. Quoi qu'il arrive, le meilleur de l'homme est de tenter. J'étais là. Mes yeux ont rencontré des yeux amis, mes mains ont touché des mains fraternelles. J'ai espéré, j'ai voulu, j'ai même agi quelquefois sous le feu croisé des propos avec un soldat insubordonné à mes trousses, un président de la République qui m'aurait voulu voir au fond d'un puits, dans la rumeur du Parlement qui déjà donnait tumultueusement de la voix comme la meute quand la bête est à l'eau. Cependant, tous les délégués de tous les pays de me prendre à part tour à tour pour m'exposer leurs thèses particulières et me donner clairement à entendre que j'étais le dernier des humains si je me permettais une objection. Et chacun de nous subissait la performance de son voisin jusqu'à l'épuisement de la série, après quoi il fallait débrouiller chemin de fer, lacs, fleuves et montagnes sur des cartes plus ou moins innocemment dessinées en vue de conclusions contradictoires, tandis qu'à la chambre, mes adversaires, qui n'avaient abouti qu'à rater la guerre, se mettaient en devoir, quoi que je fasse, d'établir que j'avais raté la paix. En 1848, à Nantes, j'avais vu les Polonais en armes partir à la conquête de leur pays. Aujourd'hui, je trouvais Paderewski tout à la joie d'avoir retrouvé sa patrie. Un lien puissant d'émotions heureuses entre ces deux moments. Il est de si beaux orages de l'homme dans l'éblouissement suprême d'un éclair de vie que, pour en jouir pleinement, il est permis de s'abandonner aux coups de théâtre dans les drames de l'humanité. Nous voilà bien loin de Foch et de ses histoires, n'est-il pas vrai? Tel que, avec ses manquements inévitables ou non, le traité de Versailles, dont l'armistice ouvrit le champ par de premiers accords d'orchestration, sera tout au moins un point d'orgue dans l'harmonie présente et à venir des peuples en travail de libération. Ce qu'il subsistera du plus grand effort des civilisations humaines pour un surcroît de civilisation universelle, je n'essayerai pas de le prévoir, après 10 ans de parlage où vainqueurs et vaincus ont donné du même coup de barre pour rompre une à une toutes les garanties du succès. Si les Allemands, amis de la culture, s'étaient trouvés capables de rechercher autre chose que des facilités d'oppression sous la conduite de leur casque d'acier, je ne pourrais m'empêcher d'admirer la puissance de leur réaction méthodique contre la défaite militaire. Mais le progrès moral de l'homme dépasserait apparemment nos possibilités organiques si nous pouvions complètement réagir d'un pôle à l'autre de nos sensibilités. Nos pères attendaient le Messie est en nous, le problème est de le dégager. Trop de gens préfèrent, en général, s'offrir au laisser-aller de l'heure tandis que l'ennemi abattu prépare des revanches dans l'ombre ou même en plein soleil. Les cités grecques se détruisirent mutuellement jusqu'à ce que Rome les enveloppa dans le commun effondrement de sa violente civilisation provisoire. La même Rome, ayant anéanti systématiquement Corinthe et Carthage, en vint un jour à connaître le même sort que ses victimes. C'est la course du flambeau qui, quelquefois, s'éteint, quelquefois se rallume, s'il a continué profondément de brûler. Des deux côtés du front, dans le trouble moral des confusions de sentiments et de pensées qui ont suivi la Grande Guerre, quel homme pourrait rassembler aujourd'hui les éléments d'une prédiction de sagesse raisonnée? Les vaincus qui, depuis leur déclaration de guerre et la violation de la neutralité belge sous la protection de la foi jurée, s'étaient rendus coupables de tous les crimes contre l'humanité, recourent puérilement à tous les mensonges pour détourner d'eux le droit accusateur des consciences outrageusement blessées. Ils aggravent ainsi leurs crimes et se condamnent eux-mêmes au-delà du jugement le plus sévère en cherchant ouvertement un retour de force pour un redoublement de mensonges et d'inhumanité. Mais voilà que nos pays humanitaires, tenus de s'unir bon gré mal gré contre tous excès de violence, ne se trouvant plus liés par la crainte immédiate d'un ennemi commun, sont revenus, comme disait M. Lloyd George, à la politique traditionnelle de l'inimitié. Suivant l'exemple de tous les peuples conquérants, l'Angleterre se débat sous le poids de ses conquêtes. La moitié du globe ne suffit pas à l'Amérique pour le placement de ses économies, qui sont un peu les nôtres, et la France, parce qu'elle a répandu le meilleur de son sang sur les champs de bataille, demeure inerte aux mains des endormeurs, sans avoir pu comprendre encore par quelle défaillance de son élan historique elle a laissé tant d'amis se faufiler inglorieusement dans les rangs de l'ennemi. Et beaucoup demandent pourquoi l'on nous abandonne, sans comprendre que notre propre cause a d'abord été abandonnée par nous-mêmes. Nous en reparlerons.